Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ensauvagement, le terme lâché par un ministre a marqué en partie l'actualité de cette rentrée. Une autre nouvelle récente donne à réfléchir. Selon un sondage récent Ipsos pour le journal Le Monde, une majorité de Français serait rien moins que pour le rétablissement de la peine de mort. La violence, tout le monde s'en plaint ou presque, mais ne sommes-nous pas beaucoup plus nombreux que cela à avoir depuis longtemps fait le choix de la violence? C'est un peu ce que nous renvoie comme en effet miroir les artisans de la non-violence. Souvent vus comme des doux rêveurs, n'auraient-ils pas pourtant en cette rentrée beaucoup à nous apprendre? Le chemin de la non-violence, c'est pour rappel le thème de... C'est pas pour rappel, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. C'est la fin de semaine, je fatigue en ce vendredi matin. Avec autour du plateau, pour nous en parler de ce sujet si important, j'allais dire en général et particulièrement peut-être en cette rentrée, Olivier Morel, vous êtes fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître, Les armes de la non-violence, paru aux éditions La Plage. Bonjour.
Bonjour.
Tchetch Etchevari, vous êtes fondateur du collectif BC. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Claire, vous êtes formatrice au Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Olivier Morel. Alors peut-être que votre nom dit quelque chose à certains auditeurs, puisque vous êtes en partie dans l'actualité. On vous connaît pour de nombreuses interventions et livres sur les violences éducatives. Alors, c'est pas complètement le sujet du jour, mais je me disais qu'il fallait quand même donner les dernières actualités sur le sujet. Si j'ai bien compris, il y a une loi en date du 2 juillet sur les violences éducatives. Peut-être qu'un certain nombre d'entre nous ne l'ont pas vu passer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette loi?
C'est en date du 2 juillet 2019.
2019, vous avez raison, pardon, ça date un peu d'un an. Allons-y quand même, on fait une petite session de rattrapage.
Eh bien, c'est une loi qui a été très longue à être votée en France, alors que d'autres pays l'avaient votée depuis longtemps, et qui dit que l'éducation doit se faire absolument sans violence. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans l'énoncé de la loi, on n'est pas précisé ce que cela veut dire, parce que beaucoup de gens considèrent que des formes de violence comme la fessée ou la gifle ne sont pas des violences, véritablement. Et on aurait dû préciser que sur des enfants, ce sont des violences, sans aucun doute. Voilà, et donc c'est une bonne chose que cette loi ait été votée malgré tout, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'elle constitue une sorte de point de repère pour les parents et pour les aider finalement dans leur tâche d'éducation.
Alors dans votre ouvrage, Les armes de la non-violence, donc, qui vient de paraître donc, aux éditions La Plage, vous en parlez un tout petit peu à la fin, je vais commencer donc par la fin, vous dites que pour 90% des enfants dans le monde, leur premier contact avec la violence s'effectue sous les punitions corporelles de leurs parents. Vous laissez entendre que dès les débuts en fait, de notre vie, du coup, un certain nombre d'entre nous et de par le monde, nous sommes soumis à comme une injonction contradictoire, ne pas frapper un plus petit que soi, et en même temps, frapper un être plus petit que soi est éducatif. Expliquez-nous ce boulet qu'on se traînerait d'une certaine manière.
Exactement, oui, et on le traîne depuis très très longtemps. C'est la violence éducative est quelque chose qui est très mal connu, mais en réalité, cela existe depuis au moins 5000 ans, c'est-à-dire depuis qu'existe l'écriture qui nous renseigne sur les proverbes, qui recommandait aux parents de frapper les enfants, et de frapper les enfants à coups de bâton, à coups de fouet. Hein. Pratique, on la retrouve sur tous les continents, dans toutes les vieilles civilisations, quelles qu'elles soient, sauf les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui, en général, ne frappaient pas les enfants. Mais partout, sinon, on traitait les enfants avec une grande dureté, et donc il en est resté quelque chose chez nous, bien que le niveau de la violence ait baissé, la violence sur les enfants ait baissé, au XIXe siècle, par exemple, il était courant de frapper les enfants à coups de bâton ou à coups de fouet. Aujourd'hui, ce serait considéré comme de la maltraitance, mais nous avons tendance à considérer que fessée, gifle, tape, ça non, c'est éducatif.
Et alors, d'une certaine manière, à vous lire, en fait, on intégrerait tous, dès les débuts, à la fois un désir d'être non violent, ou en tout cas une injonction sociétale, et en même temps l'expérience de la violence, c'est-à-dire que dans le fond, on validerait la violence, c'est ça ?
Exactement, et ça c'est très destructeur, parce que les enfants reçoivent de leurs parents deux contraintes contraires. Une qui leur dit « ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », qui est le grand principe qu'on trouve partout dans toutes les grandes religions et toutes les grandes philosophies. Et puis d'autre part, on leur fait exactement ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, c'est-à-dire on les frappe. Autrement dit, on démolit la base de l'éthique, la base de la morale, et on démolit même le principe qu'on trouve dans la Bible, le principe de la protection des veuves, de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire des êtres faibles. On considère que des êtres forts, grands et forts, peuvent faire violence à des êtres petits et faibles. Et ça, c'est vraiment catastrophique du point de vue de l'éducation, parce que les enfants s'élèvent surtout par l'exemple, et donc c'est l'exemple qu'on leur donne du comportement qu'on a envers eux qui va rester en eux et qu'ils vont reproduire. C'est comme ça que de génération en génération, on continue à frapper les enfants.
Alors on sent qu'il y a une civilisation que vous appelez de vos voeux, qui serait une civilisation non-violente, en tout cas qui aurait intégré la non-violence, et ce depuis justement la prime jeunesse de chacun d'entre nous et des générations à venir. J'aimerais qu'on fasse quand même un peu de béaba. Alors votre livre est très fourni, avec de multiples portes d'entrée, on y reviendra. Entre autres, vous donnez, je crois, presque une dizaine de clés de la non-violence, 12. Mais si on commence par le début, alors ça m'a surpris, vous dites que le mot non-violence viendrait directement des années 20 et du fameux Gandhi. Alors je me suis dit que évidemment c'était une figure emblématique, mais tout a commencé avec lui d'une certaine manière ?
Non, bien sûr, il y a eu avant Gandhi, la non-violence a commencé à se formuler par morceaux, comme c'était quelque chose de très opposé à l'habitude qu'on a de la violence. Il a fallu que des esprits multiples construisent, élaborent petit à petit la doctrine de la non-violence. La non-violence, elle a des origines dans le bouddhisme, elle a des origines évangéliques, elle a des origines humanistes. Par exemple, le livre de Étienne Laboétie sur la servitude volontaire a donné la voie vers la désobéissance civile. Elle a des origines américaines. Henry David Thoreau, qui a inventé, qui a clarifié la notion de désobéissance civile. Elle a des origines russes, Tolstoï, qui était aussi marqué par l'évangile. Et puis Gandhi, et puis Martin Luther King, dont on élaborait finalement une doctrine qui s'est exprimée pleinement, effectivement, dans le premier quart du XXe siècle.
Alors est-ce que vous pouvez citer, vous en citez beaucoup dans votre livre, des figures, on va dire, de la non-violence, Aung San Suu Kyi, donc cette résistante à la junte birmane, qui a été donc, même si aujourd'hui c'est vrai que je vois l'un de mes invités qui bouge la tête, c'est vrai que c'est peut-être un exemple qui a du plomb dans l'aile, comme on dit.
Oui.
Y a les mères et les grands-mères de la place de Mai en Argentine, ça c'est des choses connues. Un qui vous tiendrait à cœur à avoir en tête d'exemples de non-violence aujourd'hui, quel serait-il, Olivier Morel ?
Oh, il y en a pas mal. Moi, je suis très sensible à tous ces combattants écologistes qui se font assassiner en ce moment, que ce soit en Amazonie ou dans les pays du sud-est asiatique, simplement parce qu'ils essaient de défendre la nature. Et je pense aussi aux résistants chinois, qui sont nombreux actuellement à agir tous par des moyens non violents pour essayer de faire que la dictature chinoise actuelle évolue dans le sens de la démocratie, et Dieu sait que c'est pas donné.
Comment est-ce que vous définiriez la non-violence ? Vous avez une phrase comme ça, c'est un ensemble de moyens destinés à se faire respecter tout en respectant la personne de ses adversaires. Et puis un peu plus loin, la tactique non-violente consiste à diviser l'adversaire, non pas pour régner, mais pour rétablir le droit. C'est là la définition de la non-violence ?
Oui, c'est peut-être une définition. J'insiste aussi sur le fait que c'est continuer à appliquer le principe de ce qu'on appelle quelquefois la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, continuer à l'appliquer même dans les situations de conflit et de conflits dur. Habituellement, dans les situations de conflit, on estime qu'on a le droit de passer à la violence. Eh bien non, la non-violence, ça consiste à continuer à appliquer ce principe. Et alors, contrairement à ce qu'on croit, La non-violence, c'est une manière d'agir qui est à la portée en réalité de tous, y compris des plus faibles. Contrairement à la violence, quand on agit par la violence, on risque toujours de se trouver face à des gens qui sont beaucoup mieux armés que nous, finalement, que les plus faibles. Tandis que par la non-violence, les plus faibles peuvent agir, et on a un grand nombre d'exemples de ce mode d'action a bénéficié à ceux qui étaient absolument sans armes, sans moyens, mais qui ont su se faire entendre par l'opinion publique et qui ont su quelquefois convaincre. C'est pas toujours une nécessité d'arriver à convaincre son adversaire. En fait, il s'agit bien de le vaincre à condition de dire que l'adversaire, ce ne sont pas des personnes, mais ce sont souvent des systèmes, des institutions auxquelles il s'agit de résister.
Alors on aura entre autres le témoignage de Cheikh Echevarri, donc fondateur du collectif BC, qui nous racontera son parcours, qui est donc du Pays Basque, qui est passé, on va dire, de la combativité agressive ou armée, voire armée, à la non-violence. On y reviendra. Vous, dans votre ouvrage, Olivier Morel, donc je rappelle son titre, Les armes de la non-violence, paru aux éditions La Plage. Dans votre conclusion, vous avez une phrase qui peut paraître étonnante. Je me suis dit, est-il en train de réécrire l'histoire ? On peut dire des armes que le rendement, des conflits armés serait déplorable à vous entendre. Il échouerait une fois sur deux. On imagine que c'est une proportion, mais comment vous en arrivez à une telle conclusion ?
Eh bien, quand il y a une lutte armée, il y a un vainqueur et un vaincu. Une fois sur deux, on est du côté du vaincu. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que il y a un exemple en France extraordinaire. Vous savez, la France a été envahie 5 fois depuis le début du 19e siècle. Eh bien, quand on fait le compte des résultats, il y a eu 4 défaites sur ces cinq invasions, 4 défaites de la défense armée et une seule victoire. Mais encore plus catastrophique que les défaites, ça a été la guerre de 14-18, qui a fait 1 390 000 morts et 740 000 mutilés. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas. Je ne veux pas critiquer les militaires, hein, mais c'est simplement le fait, ça tient au fait que la violence armée, elle est surtout utile pour les agresseurs. Parce que l'agresseur choisit son moment, il choisit le lieu de son agression. Et donc, il a toujours l'avantage, pratiquement, l'agresseur. La défense armée, c'est souvent un mythe. On y croit, on nous présente les moyens de défense armée comme des moyens qui défendent la population, mais en réalité, je crois que c'est une illusion.
Et puis, vous rappelez qu'à l'occasion de ces invasions, la France n'était pas toujours sous-armée. Hein. Vous dites que la première, donc c'est en 1815, sous Napoléon Ier. Et en l'occurrence, on ne pouvait difficilement nier ses capacités de chef de guerre et peut-être l'armement de la France. Vous restez avec nous, on va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités. Je rappelle le titre de votre livre, Les armes de la non-violence, paru aux éditions La Plage.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le chemin de la non-violence, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, avec autour du plateau pour nous en parler Olivier Morel, fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, auteur de cet ouvrage plusieurs fois cité, Les armes de la non-violence paru aux éditions La Plage, Tchetch Etchevari qui est fondateur du collectif BC, Elisabeth Claire, formatrice au centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Tchetch Etchevari, alors vous êtes basque, comme votre nom l'indique ou le laisse deviner. Je ne vous connaissais pas, voilà, c'est, on va dire, les hasards de la préparation de cette émission qui m'a fait découvrir votre chemin. Vous allez donc nous dire un petit peu quel a été votre parcours vers la non-violence. Alors si j'ai bien compris, vous avez commencé par être un militant basque décidé en faveur de la souveraineté du Pays basque. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette première vie? Quel était votre combat exactement et vos engagements?
Non, mais moi, je suis ce qu'on appelle ici un militant abertzale, c'est-à-dire qui lutte pour défendre l'identité, la langue, la culture et puis la souveraineté du Pays basque. Je le suis aujourd'hui encore. Justement, à l'heure des grands défis écologiques, climatiques, énergétiques, je pense que chaque territoire devrait avoir accès à sa souveraineté alimentaire, énergétique, culturelle, économique, etc. Et d'ailleurs, la crise du Covid a bien montré la vulnérabilité de nos sociétés à ce niveau. Et je pense aussi qu'il y a une importance de retrouver du lien de la communauté, de la solidarité, de la communauté de destin à une époque où les gens sont de plus en plus atomisés, individualisés. Et quand j'étais jeune...
Alors justement, revenons-y. Quand vous étiez jeune, en tout cas, vous avez commencé par être un partisan de la lutte armée. Ça voulait dire quoi?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai commencé à militer à la fin des années 70. Et à l'époque, en Pays Basque, quand on était jeune à Bersalé,
Bersalé, ça veut dire quoi? C'est patriote, c'est ça?
Alors, oui, voilà, patriote, patriote basque. On était évidemment en faveur de la lutte armée parce que l'État jouissait d'un prestige immense, fait sauter le successeur désigné qui devait préparer l'après-franquisme, Carrero Blanco, avait arrêté la mise en fonctionnement d'une centrale nucléaire, avait été un peu la résistance basque sous le franquisme et même après la transition post-franquiste, on était quand même dans une situation où il y avait une répression féroce, avec la torture, beaucoup de morts des deux côtés. Et quand on était jeune, ben on était évidemment partisans de la lutte armée, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'alternative, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une voie qui pouvait à la fois allier radicalité et non-violence, ce qui est le cas aujourd'hui en Pays Basque. Et du coup, mon parcours, ça n'a pas été un parcours individuel, mais ça a été une évolution collective de beaucoup de gens qui, peu à peu, notamment dans les années, fin des années 80 et surtout les années 90, ont touché du doigt les limites de la violence, de la lutte armée.
Si ça vous embête pas, juste avant qu'on y vienne, pour qu'on comprenne bien, vous étiez un partisan de la lutte armée, mais est-ce à dire, vous n'êtes pas obligé de tout nous dire, mais que vous-même, vous souteniez ou vous participiez directement à cette lutte armée?
Oh, mais de toute façon, ici, notamment en Pays Basque Nord, je pense que beaucoup, beaucoup de gens ont soutenu d'une manière ou d'une autre, rien qu'en hébergeant des militants, en les conduisant, etc., les militants d'État ou d'autres organisations, parce qu'il y a eu au total jusqu'à 5 organisations armées, mais il faut bien se rendre compte que, par exemple, encore en 82-83, Gaston Defferre, qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement socialiste de François Mitterrand, qualifiait les militants d'État de résistants. C'était en 83 et Franco était déjà mort, donc il y avait ce contexte global là, et donc et là et évidemment il y avait toute une partie, bon, l'État jouissait d'un grand soutien populaire, hein, avec des centaines de milliers de voix aux élections qui soutenaient les formations politiques en étaient proches, et beaucoup de gens c'était pas. Il ne faut pas s'imaginer que les gens qui faisaient les armées, c'était des terroristes complètement fanatiques, etc. C'était en fait beaucoup de gens qui en fait voyaient là-dedans une manière de relever la tête et de défendre leur pays, leur culture, leur identité, etc. Et je dis État pour simplifier, mais il y avait aussi Paris-Tarac en Pays Basque Nord, et etc., etc. Bon,
alors, État,
il y avait également d'autres formes de violence qui étaient les manifestations qui se transformaient en champs de bataille avec la police.
Alors, excusez-moi, comme on ne se voit pas, excusez-moi, je vous coupe la parole, hein, c'est vrai que ça ne rend pas les choses simples. ETA, c'est donc ETA, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. La bascule vers la non-violence, vous dites en fait que ça a été le cas du Pays Basque avec vous, ou vous avec le Pays Basque, parce qu'à un moment, la violence a été face à un certain nombre de contradictions, voire même qu'elle finissait par desservir la cause, parce que, à vous lire, elle légitimait la violence de l'adversaire. Expliquez-nous un peu cette transition.
Oui, mais en fait, tout au long des années 80 puis des années 90, on a bien vu que la lutte armée et la violence, loin de renforcer la cause basque, renforçait l'État espagnol, et l'État français en partie, c'est-à-dire que peu à peu, la population condamnait les attentats, donc également avait tendance à rejeter la cause que voulaient servir ces attentats. Ça crée des dissensions et des divisions au sein même du mouvement souverainiste basque. Ça permettait de légitimer la répression des États contre ce mouvement, mais ça a été très très loin, puisque il faut savoir que dans les années 90, en Pays Basque Sud, l'État était jusqu'à interdire les partis politiques indépendantistes, les associations de jeunes, à fermer deux quotidiens, une radio, donc des choses qu'on a du mal à imaginer dans quelque chose qui est censé être une démocratie. Mais l'existence de la lutte armée du terrorisme a permis à l'État espagnol d'aller ultra loin dans des choses que normalement tout démocrate devrait condamner. Et puis après, l'autre chose aussi, je pense, c'est que il y a la lutte armée, au-delà de ce caractère contre-productif et du fait que ça nous divise et ça nous enlève de la légitimité en même temps que ça renforce et que ça donne plus de légitimité à l'adversaire. Là, en l'occurrence, l'État espagnol ou l'État français.
On a bien compris,
oui. Il y a également, d'après moi, en fait, une militarisation des esprits qui se produit, c'est-à-dire que le conflit devient très dur, la répression aussi, du coup tout devient blanc ou noir, les gens en fait ça donne des générations de militants très différents, et en plus il y a aussi un problème démocratique, c'est-à-dire qu'évidemment quand vous avez dans un mouvement une lutte armée, ça entraîne forcément des nécessités de clandestinité, donc de cacher un certain nombre de choses, y compris des éléments du débat et de la stratégie. Et donc, petit à petit, c'est quelque chose qui est obligatoirement non démocratique. Vous avez... Oui.
Alors, Tchétché Djeveri, aujourd'hui, à propos du combat non-violent du Pays Basque, vous choisissez, un objet comme symbole. En tout cas, dans l'interview que vous m'aviez fait suivre, c'était le cas. C'est une pierre. Pourquoi la pierre? La pierre comme symbole du combat non-violent au Pays Basque?
Non, mais ça, c'est vrai. En fait, c'est une intervention que j'avais faite à une journée de la non-violence à Paris, et on nous avait demandé chacun d'amener un objet de chez nous pour, bon, voilà, comme un peu support. Et en fait, la pierre, moi, j'avais amené ça, une pierre, parce que d'une part, c'est la racine des mots basques comme hache, couteau, etc. C'est le mot pierre. Donc, ça montre que la langue basque date du néolithique avant l'âge du cuivre. C'est-à-dire que c'est une langue qui est vraiment très très ancienne, hein, qui était là avant les invasions indo-européennes et qui aujourd'hui est en danger. Et donc, cette langue qui a traversé des millénaires, aujourd'hui, il nous faut lutter pour la défendre et pour quelle est la possibilité de continuer demain à exister et donc d'enrichir le monde de sa présence. Et pour moi, évidemment, dans cette journée de la non-violence, je montrais qu'une pierre pouvait symboliser des démarches très différentes, c'est-à-dire, c'est bien sûr la pierre, la résistance violente, la pierre qu'on jette contre la police dans les manifs, mais c'est aussi la pierre, quelque chose qui peut servir à construire. Et nous, justement, on est passé un peu d'une stratégie, disons, qui visait à, on disait, libérer le Pays basque par la violence, à une stratégie qui vise à le construire, qui vise à construire un Pays basque différent, souverain, soutenable, solidaire, inclusif. Et du coup, c'est toute une stratégie non violente qui va à la fois à des formes de résistance non violente, désobéissance civile, mais aussi à une stratégie de construction de ce qui est nos écoles de langue basque,
Et plus, et
nos
plus,
coopératives d'énergie renouvelable,
voilà,
etc. Et
et plus
voilà.
largement, et plus largement, ça va être l'occasion du coup de parler justement du collectif BC. Vous allez nous en dire deux mots, et puis, si j'ai bien compris, avec d'autres, BC a été aussi initiateur du festival Alternatiba, peut-être connu de certains. Peut-être vous pouvez représenter BC et Alternatiba et nous dire pourquoi, pour vous, ce sont donc des actions, des engagements non violents et à quel avenir sont-ils promis?
Ouais. BC, en fait, né en 2009 en Pays Basque, à un moment où il y a encore la lutte armée. Et du coup, BC va se définir très clairement non violent et va poser les bases d'un militantisme écologiste radical sur la question du climat notamment, radical mais non violent. Et BC va, en 2013, créer Alternatiba, qui est en fait... qui sont des villages, des alternatives où on montre un peu ce que pourrait être la société de demain et toutes ces alternatives qui permettent de la construire. Mais c'est aussi un mouvement climat et qui aujourd'hui il y a à peu près 120 ou 140 groupes locaux d'Alternatiba et de son bras, disons, de désobéissance civile qui s'appelle ANV COP 21. En France. Donc ça, c'est né par l'action de BC en Pays Basque et ça s'est propagé un peu partout en France, mais également en Afrique, à Haïti, etc. Et effectivement, la question de la non-violence est centrale puisque on comprend bien qu'on est là dans un combat pour la survie des conditions de vie de l'humanité même. Et ça, à très court terme, c'est-à-dire que la crise climatique, c'est quelque chose où est en train de se jouer aujourd'hui la possibilité que vivent ou que meurent des milliards d'êtres humains demain sur cette planète. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui disent, mais la violence est complètement justifiée, tant cette bataille, on ne peut pas se permettre de la perdre. Et du coup, qui vont justifier le recours à la violence par rapport à cette cause-là. Et nous, on est parti, et sans doute en partie par notre expérience liée à l'histoire du Pays Basque, sur le postulat que, en fait, la violence va plutôt nous desservir dans cette bataille où on a besoin effectivement d'opposition radicale aux politiques qui détruisent le climat, mais on a besoin de l'adhésion de la majorité de la population à cette nouvelle société beaucoup plus soutenable qu'il faut construire d'urgence pour éviter le changement et l'emballement du climat et l'extinction de la biodiversité. Et que du coup, il faut surtout pas faire l'erreur de rentrer dans des stratégies armées ou violentes qui vont permettre au pouvoir, à l'État et aux multinationales, au pouvoir politique et au pouvoir économique, de criminaliser le combat même des militants de l'écologie et du climat afin de faire perdurer un système qui fait que certains accumulent les profits et les milliards et qui n'ont pas du tout envie d'en changer. Et donc, ne leur permettons pas de criminaliser notre lutte en employant une violence que pourtant certains pourraient trouver tout à fait légitime.
Et l'exemple est parlant, évidemment, avec votre parcours de vie, difficile de ne pas vous écouter. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver tous les trois. À la fin de cette émission, je pense que les auditeurs auront entendu, on va dire à gros traits, ce en quoi consiste la non-violence avec cette belle illustration que vous venez de nous donner, Tchétch Etcheverry. Mais ils se disent, et moi dans tout ça? On va essayer d'y répondre rapidement après cette pause. Emmanuel Pella. Le chemin de la non-violence, c'est pour rappel le thème de cette émission ce vendredi matin, avec pour ceux qui nous rejoindraient par hasard, pour rappel, trois invités. Olivier Morel, auteur d'un ouvrage Les armes de la non-violence paru aux éditions La Plage. Tchétch Etcheverry, qui est fondateur du collectif BC, et Elisabeth Claire pour le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. Olivier Morel, juste après le témoignage de Tchétch Etcheverry, qui nous a raconté à gros traits donc son engagement et son choix de la non-violence, peut-être que ça vous inspirait un commentaire parmi tous les exemples que vous avez cités, j'imagine, que vous citez dans votre livre. Je n'ai pas vu le Pays Basque, mais peut-être ai-je lu trop rapidement votre ouvrage.
Non, effectivement, c'est une omission, une volonté. Je n'ai pas pensé à tout, mais j'ai beaucoup apprécié le témoignage de ce témoin, et en particulier l'idée qu'il a exprimée que la violence légitime, l'emploi de la violence par des résistants légitime la violence de l'adversaire. Ça, c'est un élément fondamental. On joue beaucoup quand on agit par la non-violence. On doit attribuer beaucoup d'importance à l'opinion publique, et effectivement, l'utilisation de la violence peut faire que l'opinion publique bascule du côté de la répression plutôt que du côté de la résistance.
Alors, la non-violence, avant que je vous donne la parole un peu, Elisabeth Claire, et puis les autres, hein, on va essayer de faire circuler peut-être plus la parole dans cette dernière partie. Olivier Morel, juste une autre question pour vous. À vous lire, il y a des ressorts et des moyens. Vous en listez d'ailleurs 12, ça serait donc comme les 12 armes de la non-violence, pour reprendre le titre de votre livre. J'en cite quelques-unes: la volonté de réussir, une cause communicable, la médiation, la loi et le droit, le respect des personnes, la non-coopération légale, une forme et un programme constructif. Bref, la non-violence, c'est une bataille, et une vraie bataille.
Oui, c'est une bataille, mais pas contre des personnes. Le respect des personnes, c'est justement, je l'ai mis un peu paradoxalement parmi les moyens d'action, alors qu'on considère souvent que c'est un obstacle, le fait de se priver de l'usage de la violence. En réalité, c'est un moyen d'action, parce que quand on respecte la personne de l'adversaire, c'est-à-dire essentiellement, finalement, les forces qui peuvent nous être opposés, les forces de police, éventuellement même les militaires, eh bien, quand on les respecte dans leur personne, on enlève à la partie que l'on a en face la force de la volonté de se venger. Et on a vu très souvent dans les combats non violents des policiers, des militaires, des juges, même des gardiens de prison prendre le parti de ceux contre lesquels on les envoyait lutter, c'est-à-dire les gens qui se battaient par la non-violence, parce qu'ils avaient compris que eux-mêmes ne couraient aucun risque par rapport à eux, et donc ils ne voyaient pas pourquoi on les envoyait se battre contre eux.
Alors, Elisabeth Claire, à côté de chez nous, en tout cas près de Toulouse, puisque notre radio ne diffuse pas que dans la grande agglomération toulousaine, il y a donc ce centre de ressources sur la non-violence, qui, si j'ai bien compris, est assez unique en France. Ma première question, ça serait, la non-violence, c'est à portée de tout le monde? Tout le monde peut s'y mettre un jour?
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une question, et c'est bien pour ça que le centre existe, c'est que l'idée que la violence est communément parlée, il suffit d'ouvrir le journal et on en entend parler. Par contre, de la non-violence, on n'en entend pas parler, alors qu'il y a énormément de ressources existantes. Et le but du centre de ressources, c'est de mettre l'ensemble de ces moyens-là à disposition de tout un chacun qui s'intéresse à la non-violence.
Alors, les gens qui viennent toquer à la porte de votre centre, souvent, ils viennent quoi après, justement, le constat de l'échec de la violence dans leur vie?
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi l'impuissance dans laquelle les gens se retrouvent face à des ados qui savent plus comment faire. Ils savent bien qu'il faut pas, et là je suis complètement...
Il n'y a pas que des militants du Pays Basque qui viennent toquer à la porte.
Non. Non, mais on a quelques militants quand même dans le secteur aussi, c'est pas la peine d'aller chercher loin. Mais c'est aussi le fait de se retrouver dans quelque chose qui est insupportable, de penser qu'effectivement je sais pas quoi faire face à ce qui m'arrive et pour lequel je refuse d'utiliser la violence. Il y a vraiment cette sensation de se retrouver complètement démuni, et du coup on a beaucoup de gens qui viennent en disant, que ce soit des profs ou que ce soit des personnes dans des rapports de travail par exemple, qui viennent en disant mais je fais comment, je veux pas lui taper dessus, je veux pas être vulgaire ou grossier ou injurié, mais je fais comment. Et du coup c'est face à ça que les gens viennent chercher de la ressource.
Alors on va y venir, et puis vous allez nous donner un exemple d'un sujet que vous avez l'habitude de traiter, vous qui êtes formatrice là-bas, c'est la question des conflits. Mais est-ce que parfois il y a aussi des organisations qui font appel à vous?
Ah, tout à fait.
Des entreprises, des
tout
associations, peut-être pas justement des groupes politiques, hein, mais
même.
Qui cherchent des armes, on va dire, pour des combats à grande échelle.
Ah oui, tout à fait. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir, mais il y a déjà quelques années, mais dans un forum, des journées d'été organisées par un mouvement politique, et qui effectivement se retrouve confronté à cette question de comment on peut faire quand on refuse d'utiliser les outils de la violence. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça donne une ouverture. La particularité de la non-violence, et ça a été évoqué dans les témoignages précédents, hein, c'est qu'elle nous oblige à beaucoup de créativité. Et c'est une façon de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour être autrement que dans cette violence.
Alors prenez l'exemple des conflits, puisque oui. C'est semble-t-il un sujet que vous traitez souvent.
Oui.
Alors vous n'avez pas nous donné, on va dire, l'entièreté de la formation, mais à gros traits, en quoi consiste cette formation?
Alors la formation autour de ce que j'appelle moi l'approche et transformation constructive des conflits, donc ça reprend des termes qui ont été utilisés précédemment, hein. L'idée c'est d'arriver à transformer nos énergies, ce qui se passe quand on est en conflit, donc en tension, d'arriver à transformer ces tensions pour les rendre, et je reprendrai les termes utilisés par l'intervenant précédent, pour en faire quelque chose qui soit constructif avec l'autre et non pas destructif vis-à-vis de l'autre. Et donc on est bien dans quelque chose qui cherche à être avec, qui cherche à être pour et non pas contre.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple alors?
Alors,
vue et entendue, peut-être, ou des exemples que vous donnez?
Oui. Alors, dans les exemples que l'on peut prendre, c'est tout ce qui va se passer dans les relations. Alors, je vais prendre des choses simple, mais quand mon voisin de palier fait du bruit et la nuit, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'appelle immédiatement les forces de l'ordre pour qu'elles viennent ? D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elles viendront, mais est-ce que je fais ça ? Est-ce que je rentre dans quelque chose qui me déresponsabilise ? Ou est-ce que je prends la responsabilité de pouvoir, moi, me calmer d'abord dans un premier temps, alors que je viens d'être réveillée, pour pouvoir aller toquer à la porte de mon voisin et simplement revendiquer le droit que j'ai de pouvoir dormir à une heure qui est en principe faite pour ça. Donc, par exemple, c'est ce genre de choses aussi basiques, mais qu'il convient d'apprendre parce que nous ne l'avons pas appris. Ça fait partie des éléments qui nous manquent, effectivement, et je pense que le travail fait par Olivier Morel, mais avec toute cette activité, et on en a beaucoup au niveau du centre de ressources, hein, qui concerne l'éducation et l'éducation des plus jeunes, de façon à leur donner la possibilité d'agir avec plus de respect de soi-même et de respect de l'autre en face pour arriver à construire une société qui soit moins dégradante, moins avilissante que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle.
Olivier Morel, parmi les ressorts et les moyens dont vous parlez dans votre livre, Les armes de la non-violence, il y en a un, c'est la médiation, c'est le quatrième. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? J'ai cru comprendre, pour reprendre l'exemple d'Elisabeth Claire, que c'est une réalité qui se développe aussi de plus en plus dans les écoles. Parfois, il y a des enfants qui sont des médiateurs dans les cours de récréation.
Oui, c'est une excellente initiative, surtout de le faire à l'école. Oui, et les enfants sont très capables de comprendre le rôle qu'ils peuvent jouer dans les conflits pour les désamorcer, pour que ces conflits aboutissent à des dialogues. Je crois qu'il y a une notion très importante à apprendre aux enfants, et malheureusement on leur apprend le contraire avec la méthode habituelle, c'est la différence entre conflit et violence. Les conflits, c'est normal qu'il y ait des conflits, on a des visées différentes, des désirs différents, bon, on se heurte aux autres, mais ce qui est anormal, c'est l'emploi de la violence dans les conflits. On peut mener un conflit sans violence, et là, le fait d'apprendre aux enfants, en particulier par la médiation dans les écoles, c'est une très bonne façon de faire.
Tchetch Etcheverry, est-ce que la médiation, on peut imaginer que ça puisse avoir une réalité, à l'échelle politique, au regard de votre expérience ? Est-ce qu'un médiateur, dans le conflit que vous avez évoqué, a pu avoir un rôle ou aurait pu avoir un rôle vertueux ?
Mais en fait, justement, chez nous, il y a eu ce qu'on a appelé les artisans de la paix, dont moi-même j'ai fait partie, qui ont été en fait des personnes de la société civile et notamment des militants de la non-violence qui ont parlé avec l'organisation État à un moment donné où État avait arrêté à lutte armée, mais où les deux États français et espagnols continuaient malgré tout de réprimer, d'arrêter, d'incarcérer ces militants et notamment faisant en sorte que cette organisation qui voulait désarmer ne pouvait pas désarmer parce que en fait ils avaient commencé un processus d'inventaire de leur arsenal et en fait des militants qui faisaient ça se faisaient arrêter, etc. Et du coup ce sont des militants de la non-violence qui ont proposé leur service à État pour faire eux-mêmes le désarmement et le démantèlement de son arsenal. Et donc, on a fait une première opération à Louossois où on s'est fait arrêter par la police antiterroriste alors qu'on était en train de neutraliser...
Vous dites « on » parce que vous faisiez partie de l'exposition.
Oui, je faisais partie de ces militants. Donc, on a été placé en garde à vue antiterroriste pendant 4 jours. Il y a eu une grosse mobilisation de la population et de ses élus qui ont dit « mais ces gens-là font ce que vous auriez dû faire depuis des années, ils ont été parlés avec État, ils mettent en place son désarmement, ce qui est bénéfique pour tout le monde, et donc il faut les libérer, on a été libérés, et on a pu ainsi mener au bout tout le démantèlement de tout l'arsenal d'État, et en même temps... parler avec notamment le gouvernement français pour qu'il entame une politique d'amélioration des conditions de détention des prisonniers basques qui jusqu'à présent étaient isolés et éloignés systématiquement rendant très difficiles les visites. Et aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de libérer ces prisonniers, il y en a encore un peu plus de 200, pour justement
contribuer à apaiser
l'approfondissement de l'apaisement durable et sans envie de revanche du conflit en pays basque.
Elisabeth Claire, la médiation, c'est quelque chose qu'on apprend aussi au Centre de ressources de la non-violence ?
Tout à fait. Et effectivement, on intervient sur ce qu'on appelle la médiation par les pairs, P-A-I-R-S, et qui se fait aussi bien dans les établissements scolaires que dans les établissements périscolaires, donc dans les accueils de loisirs, de façon à permettre aux enfants de pouvoir intervenir et intégrer des mécanismes qui sont relativement simples, mais qui nécessitent un apprentissage. Ça marche à condition qu'il y ait des adultes qui soutiennent ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas charger les enfants seuls de cette action-là, si par ailleurs ils voient à l'intérieur de l'établissement comment est-ce que l'autorité, ou malheureusement, il y a des rapports de force qui s'instaurent, et il faut bien qu'il y ait des adultes qui soient eux aussi formés par rapport à cette action.
Alors, au Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées, qu'on trouve de multiples formations, on en donnera donc dans quelques instants la fin de cette émission, autorité éducative et non-violence, l'écoute comme compétence relationnelle, la méthode ESPER, le développement de la coopération par le jeu, ai-je lu, aider les enfants à gérer ses émotions, se concentrer et mémoriser, à la rencontre de nos différences culturelles. Si vous deviez prendre quelques exemples de gens passés par vos formations que vous avez rencontrés dans le cadre de ce centre, l'avant et l'après, ça peut ressembler à quoi, si vous deviez tirer une histoire sortie de votre chapeau, peut-être à une autre échelle justement que celle qu'on a évoquée avec Echeverry, peut-être une échelle plus quotidienne.
Oui, c'est ça. Ben, j'ai en tête une...
Et parfois pas moins violente.
Oui, c'est de même nature. Ça se traduit pas de la même façon, mais c'est de même nature. J'ai en tête une personne... qui est venu au centre de ressources au départ pour voir ce que c'était, intéressé quand même par ce que pouvait être la non-violence, qui avait une activité professionnelle, qui exerçait en tant qu'éducatrice, et puis qui, au fur et à mesure, grâce à ses lectures, ses formations, ses rencontres, a fini par trouver un travail dans une structure associative régionale, où son travail consiste à permettre l'instauration de toute une série d'outils autour de la non-violence, dans les différentes structures qui sont fédérées dans cette association d'éducation populaire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pu évoluer à la fois dans sa propre pratique personnelle, mais aussi dans sa pratique professionnelle. Voilà.
Le Centre de ressources de la non-violence, on va donner les informations. Je rappelle le titre du livre d'Olivier Morel en cette fin d'émission, Les armes de la non-violence, paru aux éditions La Plage. L'association aussi peut-être Bissi, le collectif Bissi, à découvrir. Entre autres, je pense à ceux qui habitent dans une partie du Pays Basque où l'on diffuse. Quelques dates, Elisabeth Claire, pour finir.
Alors, je pensais d'abord citer la dernière formation qui aura lieu au mois de décembre, qui porte sur règles et sanctions, et donc on est bien sur la thématique de l'éducation, hein, avec cette question-là. Et puis sinon, on fait des formations qui s'appellent « Découverte de la non-violence », qui sont offertes à tous les adhérents, les nouveaux adhérents au centre de ressources, parce que c'est important d'arriver à définir cette notion-là. Elle l'a été au travers de vos deux premiers invités, mais c'est tellement une notion qui est non parlée de façon... naturel, qu'il est nécessaire de l'éclairer pour sortir de ce que vous disiez au début d'émission. On n'est pas des doux rêveurs, on a au contraire bien les pieds sur terre, et ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que la terre soit respectée et qu'on puisse y vivre bien.
Deux adresses pour finir aussi, www.non-violence-mp, non-violence-mp.org, et un numéro de téléphone 05 61 78 66 80, 05 61 78 66 80. Merci beaucoup à tous d'être venus nous parler de la non-violence. Voilà, on sent que c'est un long chemin, il nous reste bien des choses à apprendre, on fera d'autres émissions. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.